Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
Bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan jusqu'à la fin de la semaine. Au programme demain, une émission spéciale consacrée à la Banque africaine de développement dont le siège se trouve ici même dans la capitale économique ivoirienne et ce à l'occasion de l'élection de son nouveau président. Vendredi, vous pourrez dialoguer avec les représentants des principaux partis politiques ivoiriens. Se dirige-t-on vers une élection présidentielle sous tension? En tout cas, 5 mois du scrutin, l'opposition hausse le ton. Et ce matin, pour notre première émission, eh bien, je vous propose de débattre de la crédibilité de la CEDEAO créée il y a 50 ans, jour pour jour, pour promouvoir l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation peut se vanter de plusieurs réussites et elle célèbre son cinquantenaire dans un contexte de crise. Une crise sans précédent depuis que 3 de ses pays membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont claqué la porte de l'institution. 3 pays qui ont d'ailleurs formé leur propre alliance, l'AES, et qui de facto ont fortement affaibli l'organisation. La CEDEAO, à l'heure du bilan, vos réactions jusqu'à 9h temps universel. Et pour dialoguer avec vous, plusieurs invités. Bonjour Adama Ouattara, Katia Nefoua.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des politiques d'intégration au ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Vous êtes en contact quotidien avec la CEDEAO. Vous participez au sommet, au Conseil des ministres. Vous êtes même présent dans des réunions à huis clos. C'est dire si votre expertise nous sera précieuse pour comprendre les atouts et les faiblesses de l'organisation. Bonjour Abdourahmane Barry.
Bonjour Juan Gomez.
Docteur en sociologie politique, consultant et analyste politique. Également à nos côtés ce matin, Oswald Padonou. Bonjour.
Bonjour Juan.
Enseignant, chercheur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité, mais vous avez également travaillé sur l'intégration, la coopération régionale. Malheureusement, vous l'avez entendu, aucun représentant de la CEDEAO en Côte d'Ivoire n'est disponible pour participer à cette émission. Raison invoquée, un agenda particulièrement chargé. Autrement dit, personne au sein de la représentation en Côte d'Ivoire n'a une heure à nous consacrer. En tout cas, nous allons ensemble dresser le bilan des 50 ans. Vous avez été très très nombreux à nous écrire sur les réseaux sociaux. Avant de passer au standard, messieurs, un rapide tour de table. Adama Ouattara, quel est votre ressenti ce matin en ce jour anniversaire de la CEDEAO?
En ce jour anniversaire de la CEDEAO, je tenais au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire d'exprimer toute la fierté de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des pères fondateurs qui ont mis en place un instrument de coopération, un instrument d'intégration. C'est 50 ans d'existence, 50 ans de vie, avec des acquis, avec des moments difficiles, mais avec aussi des perspectives pour la Côte d'Ivoire.
Oswald, pas de nous. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin?
Non, un état d'esprit global de satisfaction, de fierté. Je suis né après la création de la CEDEAO, mais je jouis de la CEDEAO parce que je vis en grande partie en Côte d'Ivoire en tant que ressortissant béninois. Et donc la CEDEAO, je la vis au quotidien quand je me déplace avec ses succès, avec ses défis. Donc je pense que c'est un moment de fierté, un moment aussi de projection sur les défis à venir.
Abdourahmane Barry.
Écoutez, Juan, je suis optimiste de nature. Donc, la CEDEAO, c'est comme toute organisation sociale. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles. Mais l'essentiel, c'est de trouver les voies et moyens pour s'en sortir. Et je pense que moi, je ne perds pas espoir. La CEDEAO et les Ouest Africains sont des peuples qui croient en l'avenir. Donc, tout peut revenir comme avant.
Eh bien, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs de RFI. Ils nous appellent de toute la sous-région, des réactions de Guinée, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Sénégal, mais aussi de Côte d'Ivoire. Timothée, bonjour.
Bonjour, Juan.
On commence avec vous, Timothée. Vous êtes à Abidjan. Vous disiez au standard, la CEDEAO doit défendre la démocratie. Qu'entendez-vous par là ?
Effectivement, elle doit défendre la démocratie, parce que c'est le pilier fondamental même de son existence. Elle a dit que depuis 1975, le rôle de la CEDEAO en matière de démocratie est clairement énoncé dans ses textes fondateurs et les protocoles additionnels. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les nombreux coups d'État en Afrique, les trépatouillements de constitution, tout cela fragilise un peu l'organisation. Et donc c'est pour cela que nous, quand nous disons que pour que la CEDEAO soit, il faut qu'elle encore, elle applique elle-même ses propres tests et que ça soit beaucoup plus avantageux pour nos États africains.
Oui, effectivement, Oswald Padenou, c'est un reproche qui est régulièrement fait à la CEDEAO. Timothée parlait de tripatouillage constitutionnel. Elle est silencieuse lorsque certains chefs d'État modifient leur constitution à leur profit pour se maintenir au pouvoir. En revanche, on l'entend bien lorsqu'il s'agit de condamner des coups d'État militaires. Vous comprenez, vous, ce paradoxe ?
Non, je le comprends pas plus que d'autres. Mais je pense que la CEDEAO, en tout cas du point de vue des citoyens, il y a effectivement cette attente de démocratie, de régulation, de capacité normative pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors que ce qu'on a en termes d'institutions, en termes d'organes au niveau de cette organisation, c'est une reproduction de ce qu'on a au niveau des États. C'est-à-dire qu'on a un exécutif, la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a beaucoup de pouvoir et tous les autres organes qui ont très peu de pouvoir. Ce qui fait qu'il est difficile d'avancer sur l'agenda de la démocratie.
Oswald Padenou nous parlait à l'instant du Conseil des chefs d'État. Abdourahmane Barry, les chefs d'État, visiblement, ne souhaitent pas se condamner entre eux lorsque certains tripatouillent la Constitution.
Vous savez, Juan, la démocratie, c'est un processus qui est quand même récent. Il ne date pas de 30 ans dans la sous-région. Donc, il y a des défis à relever. Parmi ces défis-là, naturellement, il y a la question de l'alternance, la gestion des constitutions. Mais là où je ne suis peut-être pas d'accord avec l'intervenant,
l'auditeur,
c'est
oui.
De mettre sur le même point une modification constitutionnelle et un coup d'État. C'est pas la même chose. Je veux dire que la modification constitutionnelle, chaque pays membre de la CEDEAO a une constitution et c'est permis. Maintenant, là où je peux être d'accord avec lui, c'est qu'il faut renforcer ce mécanisme-là pour éviter, naturellement, les modifications chronique des constitutions.
Ouais. Adama Ouattara, du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. La CEDEAO, très souvent accusée d'avoir une approche à deux vitesses, de condamner finalement en fonction de ses intérêts.
Merci beaucoup, Juan. Mais je pense qu'il faut qu'on précise les choses. Initialement, la CEDEAO a été créée dans le but initial de mettre en place une union économique et monétaire ouest-africaine.
Oui. Au départ, il n'était pas question de politique. Effectivement.
C'est le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Mais vous n'allez pas me contredire. Aujourd'hui, on voit bien que la politique a vraiment pris le dessus sur les préoccupations économiques, par exemple.
Ce sont les faits d'actualité. Lorsqu'on parle de tripatouillage constitutionnel, je pense que c'est du ressort exclusif de l'avis des États. On demande à la CEDEAO d'aller gérer les États dans leur gestion quotidienne.
Donc une intervention de la CEDEAO quand il y a tripatouillage de la Constitution serait pour le coup une ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre.
La CEDEAO, en tant qu'institution, demande aux États de respecter les constitutions que ces peuples se sont librement données. Ce que la CEDEAO demande, c'est de respecter nos constitutions.
Oui, mais enfin, certains vous diront que le peuple en soi n'a pas vraiment décidé et qu'on trouve toujours un subterfuge pour essayer de modifier la constitution, parfois avec des référendums qui ne représentent pas la réalité du vote des citoyens ou parfois par une voie parlementaire quand on a une assemblée nationale ultra dominée par le parti au pouvoir. On va beaucoup parler politique durant les 20 premières minutes de cette émission. Sori, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les intervenants, particulièrement à Abdourahmane Barry.
Très bien, bah écoutez, il vous écoute et il vous sourit. Sori, vous êtes à Conakry en Guinée, vous disiez au Standard qu'il fallait sanctionner les régimes qui ne respectaient pas la démocratie.
Bon, alors Juan, pour préserver sa crédibilité, la CEDEAO doit appliquer ses règles avec rigueur et impartialité, sans distinction entre les régimes civils et militaires. Récemment, nous avons eu des exemples. La CEDEAO s'est montrée ferme à l'égard des pays de l'AES, tandis que dans un pays comme la Guinée, la même institution a fait preuve d'une certaine mollesse. Donc, cela laisse apparaître toujours ce problème de deux poids, deux mesures. Le manque de fermeté à l'égard de certains par rapport à d'autres. Et de l'autre côté, vous avez également le cas des régimes civils. Oui, certes civil, mais nous savons très bien que par moment, il arrive que ces derniers utilisent des subterfuges au pouvoir.
Se maintenir au pouvoir, c'est effectivement ce qu'on disait avec le premier auditeur. Je voudrais entendre Adama Ouattara du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Sori de Conakry, parler des sanctions. Ces sanctions, qu'elles soient ciblées vers la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, elles ont été perçues quand même par la population sur place comme une ingérence de la CEDEAO dans les affaires intérieures de leur propre pays.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut reconnaître que l'atmosphère de la région du Sahel était très exacerbée. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut préciser que ces États, en tant qu'États membres de la CEDEAO, sont tenus par des principes. Lorsqu'il y a un coup d'État, un changement anticonstitutionnel, on est suspendu. Mais la CEDEAO envoie toujours des délégations pour la négociation diplomatique.
Oui, des sanctions de principe, j'entends. Mais que dites-vous aux Maliens, citoyens maliens, nigériens ou guinéens qui ont souffert de ces sanctions dans leur vie quotidienne?
Oui, ce que, M. Juan Gomez, je pense qu'on ne va pas, à travers cette intervention, faire croire que les décideurs, les responsables de la CEDEAO sont aussi inhumains. Hein, il y a beaucoup d'actes que la CEDEAO a fait pour le peuple du Mali, du Sénégal, de tous les peuples ivoiriens. Je pense que c'est une circonstance. La circonstance de ce coup de force a fait qu'il y a eu des interventions. La CEDEAO a envoyé plusieurs. Il y a eu plusieurs coups d'État au Mali. Et en 2012, après, il y a eu encore d'autres changements. Il y a eu des négociations. Il y a eu rupture de négociations. Je pense qu'il faut être indulgent vis-à-vis des responsables. Le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé, ce sont des peuples frères. Donc, je pense que c'est la situation sécuritaire dans la zone qui a exacerbé les relations, les échanges.
Oui. Et qui a On va parler de la sécurité. Plusieurs auditeurs nous interpellent sur ce
Mais
point.
Je pense
précis.
Qu'il faut pas, je ne peux pas accepter sur le plateau qu'on donne l'impression que la CEDEAO est insensible aux populations. Il y a des actes qui ont été faits dans le cadre de l'aide humanitaire aux populations. Je pense que c'est des raisons politiques. Il ne faut pas tout résumer à la politique.
Alors, vous êtes là pour ça, pour nous rappeler effectivement des faits réels. On repasse au standard. Ibrahima nous écoute dans la région parisienne. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue. Vous souhaitiez nous interpeller sur les récents propos du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors d'un entretien accordé à la radio-télévision burkinabé.
Effectivement. Car en fait, ce type de déclaration qu'a eu à tenir Ousmane Sonko soulève plusieurs problèmes. D'abord sur le fond, car il est difficile en fait de dénoncer une organisation régionale pour manque de légitimité démocratique, tout en soutenant ouvertement en fait des régimes issus de coups d'État, ça, il faut le dire.
Alors, je rappelle simplement, Ibrahima, que le Premier ministre sénégalais a clairement reproché à la CEDEAO d'avoir commis des erreurs dans la gestion des crises avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a dit quand il y a du tripatouillage constitutionnel, la CEDEAO n'en parle pas, mais quand il y a des coups d'État, on sort des communiqués, on décrète des embargos et on menace d'intervenir. Et il a donc clairement accusé la CEDEAO d'avoir une politique de deux poids, deux mesures. Et donc, ces propos vous ont choqué parce qu'ils ont été prononcés par un officiel sénégalais ?
Exactement. Dans ces propos, il y a une contradiction majeure entre la défense de la souveraineté populaire et l'alignement en fait, sur les gouvernements militaires qui ont interrompu l'ordre constitutionnel. Mais il y a aussi un problème de forme et de moment. Aller tenir ces propos à Ouagadougou dans un contexte où la CEDEAO traverse une période de tension, ce n'est ni le lieu ni le moment pour délégitimer une organisation dont le Sénégal est historiquement un pilier. Bien au contraire, ce moment aurait pu être l'occasion d'un discours d'unité, de réforme, d'équilibre entre les blocs. Le Sénégal, avec une nouvelle équipe dirigeante comme Ousmane Sonko et Diomaye, jeune et encore vierge d'héritage institutionnel lourd, avec une occasion unique d'incarner un leadership d'apaisement et de clarté capable de tendre la main au
Alors,
pays de l'AES.
On va voir ce qu'en pense. On va voir ce qu'en pensent les politologues autour de moi. Oswald Padonou, le Premier ministre sénégalais, a-t-il bien fait de tenir ses propos sur place à Ouagadougou?
Alors personnellement, je m'inscris dans un temps un peu plus long en disant que simplement, à la fois je proscris, je pense que les coups d'État font beaucoup de mal à nos sociétés, mais que les transitions hâtives font encore davantage de mal et nous installent dans un cycle d'instabilité. Donc il faut impérativement que toutes les bonnes volontés, que toutes les institutions se mettent ensemble pour construire de véritables institutions qui garantissent, disons, l'appel à la prospérité de nos sociétés. Sur le sujet particulièrement, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'en ce qui concerne le Mali par exemple, qu'on n'aurait probablement pas eu le coup d'État en 2020 si parce qu'on est parti d'un contentieux électoral au Mali. sur lequel la CEDEAO n'a pas su jouer un rôle, n'a pas su engager les institutions de régulation. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment comment consolider les institutions de contre-pouvoir pour avoir des institutions qui s'équilibrent et qui permettent effectivement de défendre l'intérêt général.
On va repasser au standard avant la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Marius Trésor.
Oui, bonjour M. Juan Gomez, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Bienvenue, vous nous interpellez à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO, nous vous écoutons.
Oui, moi, pour moi, c'est une question que je voudrais poser. Le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué des déplacements dans les trois pays de l'AES. Au cours de cette visite, il a affirmé que la CEDEAO devait reconnaître cette alliance. Mm-hmm. Alors, M. Juan, je voudrais savoir où en est-on aujourd'hui?
Alors, déjà, autour de la table, est-ce que la CEDEAO doit reconnaître l'AES en tant que telle, Abdourahmane Barry?
Ben écoutez, la reconnaissance de l'AES est faite de facto. À partir du moment où les négociations de sortie officielle des trois pays membres ont été entamées, je pense que la CEDEAO n'a jamais dit qu'elle ne reconnaît pas l'AES. Maintenant, le problème, c'est lequel? Aujourd'hui, dans la sous-région, il y a ce que j'appelle la construction de l'ennemi. Qui est l'ennemi de X ou de Y? Parce que quand on entend certains points de vue au sein de l'AES, c'est comme si la CEDEAO était un ennemi. Alors qu'en réalité, la CEDEAO, ce n'est pas un ennemi.
Mais si on entend les officiels au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la CEDEAO est dominée par des intérêts étrangers. Donc la CEDEAO est une ennemie.
Justement, c'est là où il y a le problème. Un ennemi n'acquiert pas 3 millions de vos ressortissants chez lui. Un ennemi ne construit pas des camps de réfugiés pour vos réfugiés qui traversent la frontière.
Vous parlez là de la Côte d'Ivoire.
De la Côte d'Ivoire, du Nigeria, qui quand même a fait beaucoup pour le Niger. Du Bénin, qu'on accuse à tort ou à raison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le discours de légitimité des régimes militaires au Sahel construit la CEDEAO comme un ennemi. Et ça, c'est un gros problème dans le cadre de la reconnaissance des parts et d'autres des responsabilités de chacune des organisations.
Adama Ouattara, la CEDEAO doit reconnaître l'AES?
Je pense que c'est une question de fait. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, depuis le 22 mai, a débuté des négociations avec la CEDEAO pour voir dans quelles conditions appréhender, gérer cette rupture de façon fraternelle dans l'intérêt des populations. Donc je pense que ce n'est pas un problème le fait de reconnaître ou pas. Le plus important, c'est de voir quelles sont les dispositions qui sont prises de telle sorte que les populations qui vivent, qui ont toujours vécu de façon historique ensemble, puissent continuer de profiter des bénéfices.
Oui. Vous dites que ce n'est pas un problème, mais lorsque le nouveau président ghanéen a affirmé que la CEDEAO devait reconnaître l'Alliance des États du Sahel, il avait à l'époque jeté un vrai pavé dans la mare. Oswald Padenou, on a donc d'un côté le président ghanéen qui dit « reconnaissons l'AES ». On a par exemple un ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, pour le citer, qui dit « oh, notre pays n'exclut pas un jour d'adhérer à l'AES ». Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit d'un certain nombre de dirigeants aujourd'hui au sein de la CEDEAO par rapport à cette alliance?
Ouais. Non, je pense qu'il y a un narratif aussi, parfois qui ne correspond pas exactement à la ligne politique que les États défendent ou entendent défendre. Quand on remonte un peu plus même sur la question de la solidarité en matière donc d'assistance sécuritaire, il faut quand même ne pas oublier que quand le Mali a été aux prises avec les groupes armés, avec un risque de partition en 2012, que c'est la CEDEAO qui a intervenu en premier avec les contingents maliens, pardon, burkinabés et nigériens. Mmh. Donc les burkinabés et les nigériens qui sont aujourd'hui avec le Mali dans l'AES ont pour leur compte à la fois l'actif et le passif de la CEDEAO. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment la manière dont on conçoit l'avenir. Aujourd'hui, il y a une réalité politique, une réalité géopolitique de la coexistence en Afrique de l'Ouest de ces deux organisations. Il faut simplement qu'elles travaillent dans l'intérêt des populations.
Mais ma question était aussi de savoir si l'AES ne risque pas de faire tache d'huile et que d'autres États membres de la CEDEAO rejoignent cette alliance à moyen terme.
Oui, c'est une hypothèse sérieuse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le projet d'intégration au niveau de l'AES, c'est un projet de confédération. Donc, c'est-à-dire le principe de l'élargissement même. Donc, voilà, il faut prendre un peu de temps pour voir comment tout ça va évoluer.
Allez, on marque une pause 10 minutes et on revient tout de suite après la dernière édition d'Afrique Matin. Restez avec nous. Aujourd'hui, émission entièrement consacrée à la CEDEAO à l'occasion de ses 50 ans.